Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Le pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Une première émission avec un sujet de rentrée, l'école. Mardi 27 septembre, première mobilisation de l'année dans l'éducation nationale. Y aurait-il des problèmes? Pour en parler, on a invité une personne qui a quelque chose à dire. Il s'agit de Bernard Jauvert. Il est militant à la FCPE, président du conseil local du collège Arthur Rimbaud à Montpellier. On va tenter avec lui de dresser le tableau de ce que certains appellent la casse de l'école. Avec moi pour animer cette émission, l'ami de Monsieur Bongo, notre porteur de valise, Boris. Salut.
Bonjour.
Boris. Et à la technique, le trader de la radio, Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques.
Salut.
Allez, on est parti pour une petite heure.
Alors, on avait une manifestation mardi, 27 septembre, contre la suppression de postes. Alors, c'est une manifestation qui vient après les vacances, mais on avait déjà eu une manifestation au mois de juin qui rejoignait les parents d'élèves, les profs, et puis aussi les élus locaux contre la suppression des classes dans les villages ou autres. Mais en même temps, le 27 septembre, on a vu pas mal de drapeaux de la FCPE. Alors, la FCPE, c'est devenu un syndicat enseignant, ou pourquoi vous étiez là-bas?
Bonsoir d'abord. La FCPE n'est pas un syndicat déjà, c'est une fédération qui regroupe des parents d'élèves. Ensuite, les parents d'élèves ont toujours voulu, se sont toujours battus pour être considérés comme membres actifs et présents de la communauté éducative. Donc déjà, ne serait-ce qu'à ce titre-là, ils avaient leur place comme les autres fédérations de parents. Ensuite,
qui n'était pas là, elle. Non.
Qui était, il y avait quelques.
Pep que oui, pep que non.
Voilà, peut-être pep que oui, comme dit Boris. Ceci dit, s'ils n'y étaient pas, c'est pas toujours facile d'y être physiquement. Mais bon, il semblerait que le mouvement était beaucoup plus unitaire que ce qu'envisageaient les autorités, on va dire. Ceci dit, tu parlais de la manifestation qui avait eu, ou le rassemblement qui avait eu en juin. Entre juin et septembre, il s'est pas passé grand chose de mieux. Donc, il n'y a pas de raison que la mobilisation cesse.
Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de bonnes nouvelles pendant l'été?
Pas que je sache, non. Visiblement, j'étais pas le seul à avoir une absence de bonnes nouvelles. C'était plutôt l'inverse. Si on regarde les endroits où où la casse continue, c'est pas partout, mais c'est quand même globalement un constat négatif qui va pas dans le bon sens à notre idée. Quoi.
Point de vue. D'ailleurs, nous, à Wakadi, on a les micros qui traînent un peu partout, et au mois de juin, on avait Galad, notre envoyé spécial, qui nous a ramené un peu de son, qui a glané des sons à cette manifestation. On va écouter ça, puis après, on continue l'émission avec toi.
Pourquoi vous êtes là?
Parce qu'il y a des fermetures de classe. Ils vont enlever des postes de rasette.
Et pourquoi tu manifestes?
Parce que Benoît, il va partir.
Benoît, c'est qui?
Benoît, c'est un qui nous aide, il est très gentil, il est poli. Et c'est inacceptable que l'autre là, il va l'enlever parce qu'il ne veut pas payer, c'est inacceptable.
Et qu'est-ce qui va se passer si Benoît n'est plus là?
Je serai en difficulté.
Il n'y aura plus personne pour t'aider?
Oui.
Et c'est pour ça que tu es là?
Oui, pour manifester, pour leur dire qu'ils ne nous enlèvent pas le rasette.
Bonjour, vous êtes le directeur d'une école.
Oui.
Pourquoi vous êtes en colère aujourd'hui?
Pour des suppressions de postes. Des suppressions de postes à Villas, comme dans les autres villages. Et nous sommes contre parce que nous avons des effectifs et on ferme des postes et ce n'est pas normal. Donc nous venons manifester notre colère.
Quoi comme poste par exemple?
Des postes d'enseignants, des postes d'enseignants spécialisés. Sur Villas, on perd 2,5 postes alors que... on n'a pas une baisse significative d'effectifs et nous trouvons ça tout à fait anormal.
Et c'est qui décide ça?
C'est monsieur l'inspecteur de l'académie, de l'Hérault.
Et qu'est-ce qu'il fait alors?
Il vous faut passer le cordon de CRS et vous allez le lui demander. Et en même temps, demandez-leur si on peut rentrer parce qu'on a chaud.
Je viens au nom de l'intersyndicale de monter dans la salle du CDEM. L'inspecteur d'académie a refusé que je lui lise la déclaration qui vous a été présentée.
Je suis directrice d'école à l'école Saint-Tibéry, à l'école élémentaire.
Pourquoi vous êtes ici?
Alors on est ici parce qu'on nous ferme une classe, nous avons 20 élèves de plus que l'année dernière et ils nous ferment une classe, ce qui fait qu'on va augmenter les effectifs. On va se retrouver avec une moyenne de 27, ce qui fait des doubles et des triples niveaux. Et ce qui fait que dans les doubles et triples niveaux, on ne met pas 27 élèves parce que ça fait trop d'enfants. Donc ce qui fait que les simples niveaux vont être à plus de 30 pour travailler. En sachant que l'école maternelle du village est déjà à 31 de moyenne et qu'ils n'auront pas d'ouverture.
S'ils font ça, c'est pour faire des économies, non?
Alors, on est complètement dans un cadre de restriction budgétaire. Donc, il y a 700 élèves supplémentaires qui arrivent sur l'Hérault et il y a moins 28 postes. Donc, plus 700, moins 28, c'est pas mathématique. Donc, forcément, c'est des économies.
Mais bon, c'est pas forcément des économies utiles pour les gens.
Alors, c'est pas des économies utiles pour les gens, encore moins pour nos élèves qui vont être de plus en plus dans des conditions d'apprentissage difficiles. Après, on peut faire toutes sortes d'hypothèses, mais on imagine qu'ils ont décidé de saquer, oui, bien comme il faut, le service public. Et donc, on n'est pas d'accord.
Ça, c'est fait pour renforcer les services privés?
Alors, on pense, oui, parce qu'il y a déjà des sociétés qui s'ouvrent sur l'aide à la maison, les devoirs et des entreprises privées. On va se retrouver avec des enfants qui sont en difficulté et qui vont se faire aider, si les parents ont de l'argent, par des services privés extérieurs. Ça se passe déjà un petit peu par rapport aux psychologues scolaires qui ont de moins en moins de postes. Et on n'arrive pas du tout, en plus, à travailler avec ces gens-là. On ne travaille plus du tout en équipe. Et on va avoir un déséquilibre complet et plus du tout une école égalitaire pour tous. Et ça, ce n'est pas possible.
Il y a des prochaines manifestations, des prochaines actions, en fait?
Alors, on pensait qu'aujourd'hui, donc, nous aurions la décision de l'inspecteur d'académie, puisque le CDEN est décisionnaire. Or, les représentants ont lu une déclaration, ont voulu aller lire une déclaration pour dire qu'ils ne voulaient pas signer cette destruction du service public. L'inspecteur d'académie a refusé d'entendre la déclaration aujourd'hui. Donc, comme le quorum n'est pas atteint, le CDEN sera reporté à mercredi prochain. Alors, il est évident que les gens dans les écoles sont fatigués, les parents, les élus, les enseignants et les enfants. On a beaucoup d'occupations d'école et donc il va falloir encore tenir bon pendant 3 jours.
Vous avez d'autres choses à rajouter ?
Non, ça va. Contente d'être là et de voir qu'on est tous différents et là pour défendre le service public. Moi, j'y crois. C'est pour ça que je suis rentrée.
Alors Bernard, toi, tu étais à cette manifestation ?
Oui, j'y étais. J'ai participé aussi, oui.
Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est dans la suite logique là, à l'heure actuelle, puisqu'on est à la rentrée, des mobilisations qui se reconstruisent avec un peu moins peut-être de force que ce qu'on a pu avoir. Mais avec, il y avait jusqu'à 3000 personnes, on a annoncé, c'est ça, dans les rues de Montpellier ?
Pour la dernière, ouais. Oui, c'était ça. Suivant, ça dépend des sources, hein, toujours pareil. Mais... Non, il y avait beaucoup de grévistes aussi, beaucoup dans l'école primaire, si j'ai bien compris, 45% de grévistes. Et les deux sources étaient d'accord. Dans le secondaire, j'ai vu que c'était un peu plus discordant, un peu moins de monde. C'est un peu plus compliqué dans le secondaire pour la comptabiliser les grévistes.
Excuse-moi, vas-y, oui.
Non, j'étais en train de penser que je me souviens d'une manifestation où la FCPE était aussi présente. Ça devait être tout le service public à l'époque. C'était au tout début du quinquennat. Et pendant la manifestation, tout le monde se disait on part pour une lutte qui va durer 5 ans. Et ça s'est pas démenti. Je veux dire, avec des hauts, avec des bas, avec des mobilisations plus ou moins fortes. Mais au début. On savait déjà que de toute façon, on avait en face de nous des gens qui sont atteints de surdité chronique quoi, et qui ne prennent pas en compte absolument ce qui vient de la rue. Quoi.
Oui, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de victoires sur 5 ans
de
mobilisation.
Ah non, ça, on peut pas, mais je ne suis pas sûr que sur les 4 ans et demi passés, il y ait beaucoup de gens qui puissent dire qu'ils ont gagné quoi que ce soit, si ce n'est certaines augmentations de salaire de certaines catégories professionnelles. le président de la République ayant commencé par lui-même. Donc ça donnait le ton tout de suite, quoi.
Sans trop manifester.
Il y a eu très peu de mobilisation, en fin de compte, pour le soutenir ni pour qu'il obtienne.
Le MEDEF est un syndicat très efficace.
Les buralistes aussi.
Ah, les buralistes, ouais, c'est vrai. Et les restaurateurs. Et donc là, 70 000 postes supprimés en 4 ans. Donc là, on commence à sécher le lac et on commence à voir poindre le fond. Mais toutes ces suppressions de postes, là, il paraît, Luc Châtel nous a dit que ça ne changeait rien au niveau de l'éducation. Il semblerait que les gens dans la rue qui manifestent pensent le contraire. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences de ces suppressions de postes dans le quotidien du collège où tu milites à FCPE ou dans les écoles?
Alors, le chiffre, bon, je ne sais plus si c'est 70 000, 40 000, mais peu importe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse qui dit, l'image que tu prends en disant on assèche le lac, maintenant on voit le fond. En fait, dès qu'on a commencé à enlever un peu d'eau dans ce lac pour garder l'image, il y avait déjà des problèmes, parce que ça fait des années que dans le primaire, on parlait du RASED, on entendait parler du RASED, donc c'est ces enseignants spécialisés qui interviennent sur des enfants qui ont des problèmes ponctuels pour les remettre leur permettre de faire leur apprentissage dans de bonnes conditions, puis de continuer leur scolarité. Dès le début, on s'est mobilisé là-dessus, le RASED, enfin, tous ces maîtres qu'on appelle EEG, qui intervenaient, ça s'est senti assez vite. Alors ça augmentait pas le nombre d'élèves par classe, mais ceux qui avaient des problèmes restaient avec leurs problèmes. Ce qui me gêne, et ce qui gêne beaucoup de monde quand même, c'est que dans le projet éducatif de l'éducation nationale et principalement sur le rectorat ici, c'est qu'il est écrit qu'ils feront tout pour ne laisser aucun enfant sur le bord de la route. Or, depuis 4 ans, le bord de route, il doit commencer à être bien bien semé d'enfants qui sont laissés sur le bord, quoi, hein, qui peuvent plus suivre parce que il manquait dès le départ quelques postes. Alors on a dit oui, ça se voit pas, ça touche pas grand monde. Alors c'est vrai que la mobilisation était peut-être, ça se sentait moins, les gens étaient peut-être un peu moins concernés. Maintenant ça touche, effectivement, on touche là vraiment le fond. Donc ceux qui se sont mobilisés il y a 5 ans ou 4 ans, ils continuent à se mobiliser et on voit apparaître des nouvelles catégories. Bon, je pense au privé qui lui aussi maintenant commence à prendre des coups, sachant que le privé sous contrat, les enseignants sont quand même payés par l'éducation nationale, dépendent de l'éducation nationale, c'est pas un privé totalement privé.
Donc là en fait, on a eu privé, public, même combat pour défendre l'école, ce qui paraît un peu surprenant quand on sait l'opposition entre ces deux institutions quand même, ça fait un peu...
Je suis pas sûr qu'il y ait une opposition personnellement, je serais un fervent défenseur d'éducation nationale publique. Et je voudrais qu'elle reste nationale, que ça reste de l'éducation et que ça reste public, que ça soit un service public. Gratuit aussi. Ça, alors, c'est un autre débat. Ceci dit, qu'il y ait de demandes privées, alors on est, nous, dans une région où le privé n'a pas énormément de poids, mais tout à l'heure on en parlait hors antenne, en Lozère, il y en a. Vous allez...
Il y a des écoles publiques en Lozère, on peut le dire.
Il y en a aussi.
Pas beaucoup, mais il y en a, c'est vrai.
Il y a du privé, même de l'enseignement adapté privé dans l'ouest de la France. Je me souviens d'une dame qui arrivait de l'ouest et qui demandait à la FCPE où est-ce qu'elle pouvait trouver donc une SECPA, une section d'enseignement général adaptée. Il me manque le P, professionnel adapté, ça doit être. Les gens de l'éducation nationale ici, qui étaient en commission, je siégeais avec eux, ils souriaient, quoi. Ça n'existe pas chez nous. Alors que dans certaines régions, ça existe. Donc le privé, il ne faut pas forcément opposer le privé au public. Il y a des demandes spécifiques. Si vous avez vraiment envie que votre enfant ait un enseignement dans une religion, pourquoi pas le mettre dans un privé, mais que ça soit clairement dit. Moi, je ne suis pas d'accord que ça soit avec nos propres impôts qu'on distribue sur du privé. Bon. Ouais. Bon, voilà. Après, donc c'est vrai, ces gens-là commencent à être touchés puisque ce sont des enseignants. Alors, je parle du privé sous contrat. Des enseignants qui sont salariés par l'éducation nationale et ben, les postes, ils les prennent partout. Le but étant juste que comptable. Le gros problème, c'est ça, c'est qu'on est dans la comptabilité. On dit, voilà, il faut faire tant d'économies. Enfin, vous avez le budget est en train de... Il y a une proposition de budget. Hein, il y a 3 ministères qui ne bougent pas, tous les autres régressent. Le ministère qui ne bouge pas, c'est l'armée, la justice, et ça doit être l'intérieur.
C'est étonnant comme choix.
Oui, voilà. Alors, c'est vrai que bientôt...
Pourquoi t'as quelque chose contre la justice ?
J'ai rien contre la justice.
Non, la justice, il en faut. Hein,
Comment on réglerait le problème de Karachi, tu veux dire ça ? C'est important, la justice.
Qu'est-ce qu'on ferait de toutes nos valises ?
Ah oui, on sera embêtés.
Alors, quand t'as invité Bernard, on avait en tête aussi le fait que t'étais... on sait que t'as une fille et qu'il y a un troisième. Est-ce que les incidences... Mais on a des renseignements assez précis à Wakadia tout le temps. Mais pour le coup, t'es l'exemple parfait. C'est-à-dire que t'as 4 ans de collège... En tout cas, ta fille a 3 ans de collège derrière elle. Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes ? C'est-à-dire au-delà de ce qu'on a parlé des RAZED, on a parlé des postes par-ci par-là. Toi, qu'est-ce que tu as pu observer sur le collège, donc Arthur Rimbaud, dans le quartier de Selles-Neuve à Montpellier ?
Alors, si on parle que de postes, la FCPE a beaucoup alerté les adhérents et puis tous les gens qu'elle a rencontrés sur la réforme qu'il y a eu de la formation des maîtres.
La masterisation.
Des enseignants, en général. Et on pensait que c'était ça le plus grave, à la limite. Et ça s'est vu l'an dernier, au collège Rimbaud, c'était catastrophique. C'est-à-dire que... Et puis, il n'y avait pas que le collège Rimbaud, c'était tout le département.
C'est quoi cette réforme ? Vas-y, en deux mots, très rapidement.
Ce qui se passe globalement, oui, c'est ce que tu disais, Boris, c'est la masterisation, c'est-à-dire que les futurs enseignants vont faire 4 ans de fac dans le domaine qui les intéresse, ils vont sortir avec une maîtrise, ils n'ont jamais eu un cours de pédagogie, un cours de comment gérer une classe, ils n'ont jamais vu une classe pour de bon.
Alors qu'auparavant, ils étaient formés par les UFM, c'est ça ?
Il y avait les UFM pour les maîtres qui disparaissent, donc les professeurs des écoles maintenant. Et pour les enseignants, il y avait un système de stage, alors qui a été rétabli. Mais l'an dernier, ils ont commencé, c'est-à-dire que ces nouveaux enseignants sont arrivés sur ce qu'on a appelé des postes berceaux. Donc, ils avaient, au 1er septembre, au 3 septembre, ils avaient une classe. Mais comme ils n'étaient pas formés, on laissait la classe. Donc, ils étaient titulaires d'une classe, mais ils étaient obligés d'aller suivre 5, 6 semaines, ça dépendait des matières, je crois, avec un autre professeur. Donc, tous ces nouveaux enseignants avaient une classe, mais n'étaient pas présents. Donc, c'était un peu plus compliqué que ça. Donc, tout le corps de remplaçants a été mis pour prévoir ça. Donc, tous les enseignants qui ont eu la malchance d'avoir une maladie, un accident...
N'étaient pas remplacés.
Donc, au collège que je connais bien, Rimbaud, pour ne pas le citer, certains élèves de 3e, par exemple, n'ont pas eu de professeur de français pendant plus de 6 semaines. On était jusqu'à 48 heures par semaine qui n'étaient pas enseignées, sur tout le collège.
Et en fait, d'un côté, on a eu donc des classes vides, sans enseignants, parce que les remplaçants étaient mobilisés pour pallier à ces classes berceaux. Et de l'autre côté, c'était une formation professionnelle très faible. Et finalement, contrairement à avant, il y avait une formation professionnelle. Et maintenant, le métier d'enseignant n'était pas vu comme un métier parce qu'il n'y avait pas de formation.
Oui, voilà. Il n'y a plus cette connotation pédagogique. Ils vont l'apprendre sur le tas, mais peut-être que ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui risquent de craquer. Ouais. En général, quand on débute, on n'a pas les classes les plus calmes. Parce que techniquement, si on va dire, dans leur matière, ils sont forcément bons. Il n'y a pas de problème. Ils ont eu leurs examens. Mais si on n'a jamais expliqué comment désamorcer un conflit quand il y en a un, et il y en a forcément dans l'année, il y en a forcément dans une classe. C'est pas possible autrement. Ou alors c'est que les enfants sont éteints et là c'est dramatique pour la société si nos enfants s'éteignent. Donc ça c'est.
Ça c'est vrai. Il est interdit d'empailler les enfants en classe pour être tranquille. Ça c'est sûr.
Et oui.
Et donc du coup, on a des conséquences donc avec la masterisation et là avec la diminution de postes.
Alors avec la diminution de postes, ce qui se passe, c'est une augmentation du nombre d'élèves, puisque le nombre d'élèves, on a entendu tout à l'heure, le nombre d'élèves entre autres dans l'Hérault ou dans l'académie augmente, et le nombre de postes d'enseignants diminue. Donc forcément, le nombre d'élèves par classe augmente. Alors il n'y a pas de vraie limite. On sait que même si un inspecteur d'académie nous avait dit que le nombre d'élèves dans une classe n'interfère pas
avec qui est 20 élèves ou 30 élèves, voilà,
c'était entre 15 et 30, c'était pareil. Sauf que peut-être plus tard on parlera d'autres structures de l'éducation nationale où ils ont limité le nombre d'élèves pour avoir une réussite. Donc là, on tombe. Alors, ça dépend des collèges. Moi, hier, j'étais à une réunion de FCPE de secteur, donc Lunel, le bassin Lunel, Montpellier, 7, si je me souviens bien. primaire, secondaire, lycée, etc. Donc il y a des, il y a des primaires qui ont des classes à 31, 32. C'est, enfin, moi ça me paraît une aberration. Et il y a des collèges qui on va avoir aussi 32. Il y en a d'autres qui vont être à 24. Sauf que on s'est battu, entre autres à Rimbaud, mais ça va être pareil pour Foncarade, pour la SCAS, pour, on va dire pour les collèges de périphérie, pas du centre-ville, que la population n'est pas la même. Donc la population d'élèves, je parle.
Mmh. Avec des difficultés particulières.
Alors voilà, donc on sait que des classes comme ça, si elles dépassent un certain nombre qui est... je sais pas, on va pas donner un chiffre, mais bon, à 24, ça se gère. Au-dessus, ça commence à être délicat et on multiplie les échecs.
Alors nous, à Ouakadi, il y a quelques temps, on a fait une semaine radio avec la SECPA de Lansargues et on a été visiter l'internat d'excellence. Alors l'internat d'excellence de Montpellier, c'est assez marrant parce que Luc Châtel et les autres ministres nous disent à longueur d'antenne que le nombre d'élèves n'y fait rien sur la réussite scolaire, comme tu disais tout à l'heure. Mais là, il se trouve que lorsqu'ils veulent améliorer la réussite scolaire des élèves à l'internat d'excellence, il y a un taux d'encadrement assez important et c'est ce qu'on va voir avec le reportage qu'ont fait les élèves de la SECPA de Lansargues au mois de juin dernier.
Bonjour, bonjour, on va vous recevoir. Je vous présente Manon, qui est une élève de 3e et qui va vous parler un petit peu.
Bonjour, alors je m'appelle Elodie. Cette semaine, on fait un projet radio et je voudrais vous poser quelques questions sur le thème choisir.
Qu'est-ce qu'un internat d'excellence? Quel est son rôle?
C'est un collège-lycée déjà. Et étant donné que c'est un internat, on a beaucoup de temps pour travailler. Et les professeurs, comme les élèves, sont sélectionnés en fait pour venir ici. Donc en plus d'avoir beaucoup de temps pour faire du travail, on a aussi des professeurs et des surveillants, tout ça qui sont très présents. Et donc le rôle en fait, c'est d'aider les élèves à se sentir plus à l'aise en classe et d'avoir une meilleure note, d'avancer, quoi, tout ça.
Avez-vous un règlement intérieur plus strict qu'ailleurs? Comment a-t-il été choisi?
Plus strict, peut-être pas forcément, mais comme on est en internat, il y a quand même plus de règles et tout ça, on est beaucoup plus encadré. Et puis s'il a été choisi, en fait, on a un peu fait les règles, nous aussi. Plus strict, je sais pas, enfin pas forcément qu'un dans un autre lycée, quoi. On a les mêmes règles, mais on l'a un peu choisi, je veux dire, on l'a fait avec les professeurs et les surveillants, et voilà.
Les journées sont longues ou courtes?
Ça dépend des cours et des personnes, en fait, parce que c'est vrai que mes journées finissent à 19h, la première année, ou du moins au début, ça peut être vachement dur, parce qu'on n'est pas habitué, sur le coup, on nous balance beaucoup d'heures de cours, finir à 19h, c'est... Ça fait un choc, quoi, alors que d'habitude on finissait à 15h30 dans un ancien collège, en moyenne, c'est ça, quoi. Mais autrement, on s'habitue assez vite, quoi, finalement. Parce qu'on a pas mal de temps libre et les activités à côté sont tellement extraordinaires qu'on oublie complètement les horaires de cours, parfois c'est 19h, quoi.
Ici, à l'internat, il y a une règle pour s'habiller. Enfin, il faut.
Il faut une tenue décente quand même. Donc généralement les jupes trop courtes ou les talons trop ou les trop grands décolletés, c'est pas très bien accepté. Enfin, c'est un peu comme partout, je suppose. C'est pas, enfin voilà, donc faut une tenue assez décente. Maintenant, ça, on peut s'habiller un peu comme on veut. Enfin, voilà.
Est-ce que la cigarette est autorisée?
Non, surtout pas.
Et comment on fait pour fumer?
On fume pas. Moi, je suis non-fumeur, donc ça ne me concerne pas.
Mais... pas de la semaine.
Malheureusement, il y en a qui le font. Hein. Ils vont se cacher dans un coin et fument, mais c'est absolument pas autorisé. Si on les chope, ils s'en prennent plein la tête. C'est malheureux, mais... Ouais.
Pourquoi as-tu choisi de venir dans cet internat? Est-ce que tu regrettes ton choix?
J'ai choisi de venir ici parce que j'avais des difficultés dans mon ancien collège. Mes notes étaient catastrophiques et... Et puis on m'a dit qu'en venant ici, ça irait beaucoup mieux. Et puis c'est vrai, parce que maintenant j'ai une excellente moyenne et les professeurs sont motivés, tout ça. Donc je regrette vraiment pas d'être venu ici. C'est-à-dire, je m'entends bien avec les gens, les professeurs, tout ça. Et puis ils sont là pour ça, donc mes notes ont augmenté. C'est génial.
T'as combien de moyenne?
Ma moyenne générale? Ça tourne autour de 14 peut-être, quelque chose comme ça.
En quoi l'internat d'excellence va t'aider à faire les bons choix dans la vie?
Sans doute les professeurs ou les AED qui sont là pour nous aider, nous conseiller. On a aussi une psychologue et puis tous les adultes en fait ici sont très présents. Ils nous aident beaucoup, ils nous assistent, tout ça, donc ils nous aident à faire des choix, ils nous conseillent. Et puis aussi pour les notes, ça, comme on a les notes qui augmentent constamment, on n'est jamais en baisse ici en fait. On se dit que qu'on peut avoir une meilleure orientation scolaire et puis même en tant qu'être humain, on se sent bien quoi dans sa tête, c'est on fait des choix qui sont les bons quoi.
Ben merci beaucoup.
Merci.
Hein.
Merci à vous. Hein.
Alors les êtres humains là-bas, ils sont bien soignés parce que le sport, c'est des kitesurf ou alors des voies comme ça. Les voyages scolaires, c'est à Dakar, au Danemark. Donc là, il semblerait que...
Ça change du musée Fabre, même s'il est très bien le musée Fabre.
Le musée Fabre est très bien, ouais, ça change de courir autour de 3-4 platanes et de s'écorcher les genoux sur le goudron. Donc en fait, il semblerait que quand on veut réussir, on concentre les moyens à des endroits. Ça te laisse songeur, c'est...
Non, ça me laisse pas songeur. À la limite, ça pourrait me laisser envieux, sans parler d'âge. Mais
ça c'est pour non, les... c'était
vieux, vieux jeu de mots, voilà. Ouais. Ceci dit, non, on a rencontré l'inspecteur. Enfin, pour avoir rencontré l'inspecteur d'académie l'an dernier, il nous parlait justement d'internat d'excellence. Je disais quoi, c'était pour nous dire que quand on met du personnel adulte, qu'on met des emplois du temps adaptés, qu'on met un tas de moyens financiers et autres.
Des surveillants.
Qu'on choisit la population en plus qui vient dans le collège, on a de la réussite. J'ai dit, si c'est la démonstration, c'était pas la peine de nous la faire, on le savait ça déjà. Donc après, c'était juste de dire, eh ben, ok, mais faites ça partout. Faites ça partout, mais c'est pas avec les moyens qu'il y a actuellement que ça va pouvoir se faire. C'est l'inverse.
Donc là, en fait, avec les internats d'excellence, ils montrent que c'est complètement l'opposé de leur politique qu'il faudrait faire. Il y a un taux d'encadrement de 3 élèves pour un adulte, quand on compte encadrement, donc c'est prof et puis surveillant. Je ne sais pas, dans un collège comme le collège que tu connais, ou Foncarade, ou Lascaz, ou Joffre.
Oui, dans un collège. C'est un collège qui est relativement important là, sur Rimbaud, c'est autour de 600, enfin, je crois que c'était 644 exactement inscrits, plus les SECPA, donc une soixantaine, on va dire, une cinquantaine. On va dire autour de 700 personnes, 700 élèves. Il doit y avoir 60 enseignants, à quelque chose près. On va dire, allez, une 90 personnes qui encadrent 700. Ouais. Donc on est au double, hein, sur 6, sur 7. Ouais. Donc c'est vrai que si on doublait le nombre d'enseignants, d'encadrants, que ça soit infirmière, CDI, bibliothécaire, enfin ça s'appelle pas comme ça,
documentaliste.
Informaticien, des gens qui feraient tourner le parc informatique, ça serait pas mal ça.
Qu'il y ait des ordinateurs.
Ah mais ça encore, ça vient petit à petit. Va falloir former les enseignants aussi, mais...
On dresse un tableau alors du coup qui est
très peu positif.
Très peu positif. On a pas mal parlé du collège Arthur Rimbaud. Ça serait dommage quand même qu'on sorte de cette émission avec une image dégradée de ce collège, parce que moi je pense qu'on pourrait prendre 5 minutes aussi.
J'ai pas l'impression d'avoir dégradé l'image.
Non mais de
d'ailleurs c'est interdit de dégrader les collèges.
Un collège où il y a pas de moyens, où c'est.
Non, j'ai pas dit ça. Je parlais.
J'aimerais que tu nous expliques peut-être un petit peu les enjeux qui peut y avoir sur un collège qui techniquement pourrait être l'exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler la mixité dans les collèges autour de la carte scolaire c'est le collège d'affectation de villages, c'est ça, de Saint-Georges-d'Orge, Juvignac, Selle-Neuve et deux ou trois écoles de la Paillade. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'exemple parfait de ce qu'on pourrait imaginer comme étant le rassemblement de populations d'horizons diverses avec des moyens
différents. Sur le papier, c'est la carte scolaire mixte.
Sur le papier. Dans les faits, c'est plus difficile que ça, on s'aperçoit. Et quelle incidence a eu l'ouverture l'ouverture annoncée, en tout cas, de la carte scolaire sur un collège comme Rimbaud?
Alors, c'est un collège comme Rimbaud, comme celui des Escoliers de la Mosson qui est en haut de la Paillade et qui drainait des Grabelles, donc aussi une mixité intéressante. Alors c'est vrai que celui du centre de la Paillade, lui, il draine que le centre de la Paillade, donc la mixité est un peu moins marquée. Il y en a partout, hein. On parle de Montpellier, mais des collèges, il y en a sur tous les Raux, hein. Enfin il y en a partout, mais... Il y a le problème de la ruralité. Hier, j'étais avec des gens qui étaient sur Marcillargues. Ils ont d'autres problèmes aussi dus à la, Bon, par exemple, on va prendre juste celui-là, parce qu'il nous citait cet exemple, ce parent d'élève, représentant FCPE. C'est, la natation est obligatoire dans les collèges. Or, à Marcillargues et dans le bassin autour, ils n'ont pas les moyens d'avoir une piscine, donc ils font de la natation sur l'herbe.
Même un taureau piscine, ils n'ont pas à Marcillargues.
Et non, et même pas.
Il faut de la natation sur l'herbe.
Oui, alors il nous rappelait quand même que la dernière, ben, c'est, ça avait été
fait
dans
un autre collège,
c'est-à-dire qu'on leur apprend sur, dans l'herbe. Exactement. C'est exactement
ça. Sauf qu'ils n'ont pas de tabouret.
Parce qu'on n'a pas les moyens, donc on peut parler aussi de ces problèmes-là. Il y en a qui, problèmes de transport, il y en a qui passent des heures dans les transports parce que le collège est plus loin. Enfin, il y a énormément de choses. Donc la carte scolaire avait cet avantage-là. Un, c'était le collège unique, et deux, c'était la mixité sociale, enfin, les catégories socio-professionnelles, un bon mélange. Et si tout le monde le respectait, effectivement, ça faisait un brassage qui permet de niveler par le haut, parce que c'est toujours par le haut que ça se nivelle, c'est jamais par le bas, quand il y a un bon mélange, les niveaux. Donc... Le fait de dire un jour, ben, la carte scolaire, on peut avoir des dérogations. Alors, ça, on les a pas aussi facilement que ça, mais au début, c'est comme tout à l'heure avec le lac et les postes. Au début, c'était relativement facile, et il y a eu effectivement des fuites. Alors, je ne sais pas où vont ceux de Grabel, mais ceux du bassin de Rimbaud, donc Saint-Georges-Vignac, peuvent partir sur Pignan ou... Montarnot, voilà, j'ai cherché le nom. Le problème, c'est que ces collèges débordent de gens et ils sont à des niveaux de taux d'effectifs qui de déremplissage qui sont énormes. Donc, ils vont avoir des classes à 32 et ils ont de plus en plus de problèmes. Et c'est vrai dans presque tous les collèges. Et alors, Rimbaud a aussi cette particularité, c'est qu'il y a beaucoup de dérogations en 30. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent venir sur Rimbaud parce qu'il y a encore cette mixité grâce à des gens des deux villages, de Celle-Neuve et certaines de la Paillade qui décident de laisser leurs enfants parce que c'est, après tout, c'est une bonne école de la vie. Parce que dans la vie, on fréquente plein de gens et c'est bien de pouvoir parler à tout le monde.
C'est la richesse.
Oui, ça, normalement, on s'enrichit. Et donc, sur Rimbaud, il y a pas mal de dérogations en 30. Alors, des gens, par exemple, qui habiteraient sur le secteur de la SCAS, par exemple.
La SCAS, un autre problème de non-mixité sociale et culturelle.
Alors là, oui, ça, c'est encore plus compliqué. Mais il y en a d'autres. Il y avait des escoliers, puis en fin de compte, non. Voilà, c'est ça qui demande à venir sur Rimbaud. Parce que... Alors, dans tous les collèges... Tous les collèges que j'ai vus et les parents d'élèves que j'ai vus avec qui j'ai discuté de ces collèges de Montpellier et autour, c'est 99% de l'encadrement fait le maximum. Le problème, c'est une fois de plus, à force de leur ajouter des tâches et des tâches et des tâches, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, eh ben, ils sont au taquet. Ils peuvent plus donner plus. On va dire, il faut ouvrir le collège le soir pour que les gamins restent faire leurs devoirs, on les aide. Oui, mais il faut des gens. Si vous les payez pas, les enseignants, s'il faut qu'ils restent de 8 heures, enfin, ils font leurs cours, il faut les préparer, les cours, hein, tout ça. S'il faut qu'ils soient là à midi aussi pour le temps méridien, pour faire une activité, qu'ils soient aussi là le soir, parce qu'on n'engage pas des gens parce qu'il n'y a pas de moyens, ils ne peuvent pas faire plus. Donc c'est rarement les parents n'inscrivent pas leurs gosses dans un collège, pas parce que l'équipe éducative n'est pas bonne, parce que ça c'est on n'entend pas ça, c'est juste des idées qu'ils ont comme ça, des on-dit. C'est tel collège, c'est la guerre. Alors, quand vous leur dites, citez-moi des faits, dites-moi ce qui s'est passé, ou vous avez entendu, ou vous avez vu quelque chose. Ah ben là, il n'y a plus personne qui répond. Parce qu'on parlait tout à l'heure de dégradation. Le principal de Rimbaud nous faisait remarquer que c'est un collège qui est pas dégradé, qui a été refait il y a quelques années de ça. Les enfants se sont appropriés ce collège, ils y sont bien, ils ne le dégradent pas. Bon, il y a des petites dégradations, mais il n'y a pas de tag.
Il n'y a pas de dégradation massive. En fait, c'est pas
non, c'est pas un collège délabré, loin de là. Alors, il y a le travail du conseil général sur les collèges, de la région sur les lycées, des mairies sur les écoles. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il faut prendre possession de l'endroit où on travaille. Si on n'y est pas bien, on ne va pas le respecter.
Bernard, je te propose à tout le monde qu'on fasse une pause musicale et on se retrouve juste après
Alors on va écouter Zebda qui vont faire leur grand retour d'ici peu et je crois qu'ils sont même à Montpellier mi-décembre. N'achetez pas trop de place, sinon on n'aura plus à Wakadi.
Sont devenus tous mes amis. Je me rappelle et c'est pas si loin de là où on mettait le feu à tous les coins. Je me souviens et c'est pas des ragots. On était plus près des haltères que des égaux, plus près de la cheville que du cerveau. Je me souviens et c'est pas si loin, mais je peux pas dire que je regrette rien. À 15 ans t'as la tête comme un gourdin, où t'es plus proche des mains que des humains. J'ai vu des attaques au croissant chaud le matin qui méritaient pas qu'on nous traite d'assassin. Que sont devenus tous mes amis? On s'est pas tous tirés d'affaires, pas de la même manière. Que sont devenus tous mes amis? On s'est pas tous tirés d'affaires, pas de la même manière. On était chaud, tout comme nos aînés. C'est pas la faute à la mer Méditerranée, mais je sais qu'on allait plus souvent au ciné. On est monté sur tous les arbres à bout de bras, les pommiers, tous les cerisiers, les acacias. Mon frère, toutes les branches se rappellent de moi. On payait pas, on faisait des ravages, et puis les devantures et tous les étalages. À 15 ans, tout passe, passé par l'œsophage. Comme on finit par attraper la diarrhée, et qu'on a digéré les fruits avariés. On s'attaque à les poussiers, on s'attaque à les poussiers. Que sont devenus tous mes amis?
Et aujourd'hui, je pleure et puis j'en
sais pas plus tirer d'affaires, pas de la même manière.
Tu passes à l'épicière, tu veux manger toute la terre entière. Alors on casse tout, on lâche pas l'affaire. On a commencé à marquer des territoires, fils de Krao et de tous les barbares. Un concentré de méchants, c'était rare. Et tous les jours, on était en vacances. Mais franchement, tout est foutu d'avance. Quand le bois est d'un seul côté de la balance. Après les nunchaku et la capazoro, après les mobilettes et les petits vélos, il restait rien, il fallait du nouveau.
Un sourire qui disait il est pas si con, un îlotier à qui j'aurais dit non, et qui m'a saoulé avec son intégration. Intégré je le suis, où est la solution? 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 Que sont devenus tous mes amis?
Et aujourd'hui je pleure et puis j'en
sais pas plus tirer d'affaire, pas de la même manière.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Si on se dit, il y a quelque chose à dire. Voilà.
C'est Wakadi sur Radio Clapas 93.5. On est en train de parler de l'école avec Bernard Jauvert, qui est militant à la FCPE. On peut te présenter comme ça.
Ah hein. Oh, oui, ça fait partie d'une de mes activités.
D'une de tes activités.
Et donc là, on a vu l'aspect parent d'élève. Et à Wakadi, on va un peu partout. On a même été côtoyer des profs. Et on a été voir Chantal. On a été lui demander un peu son point de vue sur l'école. Chantal, elle est prof depuis 15 ans. Elle a d'abord été à Paris, puis maintenant elle est à Montpellier au lycée professionnel Léonard de Vinci. Alors vous allez me dire 15 ans, c'est pas beaucoup, surtout comparé au nombre d'annuités qui lui reste à faire. Mais 15 ans, c'est suffisant pour pouvoir avoir un aperçu du changement qui s'est opéré dans l'éducation nationale. Et on va l'écouter.
Alors il y a beaucoup de choses qui ont évolué puisqu'on est passé... d'objectifs qualitatifs et pédagogiques à des objectifs purement comptables, c'est-à-dire que clairement on nous signifie que on préfère largement nous faire faire des heures supplémentaires plutôt que conserver un poste. On nous signifie par exemple les professeurs d'atelier maintenant sont obligés eux-mêmes d'aller chercher l'argent qui vont leur servir ensuite à acheter le matériel pour les élèves dans les entreprises. Les budgets justement pour les ateliers ont été diminués entre l'année dernière et cette année de moitié. Et on assiste à des choses aberrantes, comme par exemple le regroupement de classes, parce que les effectifs sont un peu inférieurs à ce qu'ils devraient être. Donc les premières années, métallerie et les terminales, par exemple, qui veulent regrouper à l'atelier, sachant que c'est pas du tout les mêmes programmes, pas du tout les mêmes outils à utiliser, pas du tout les mêmes normes de sécurité. Enfin bon, ça pose des problèmes à tous les niveaux. Donc voilà, ces exemples-là, on peut les multiplier vraiment à l'envi. Et c'est des objectifs qui sont purement comptables. Ça, c'est affiché maintenant, c'est revendiqué, c'est assumé, c'est décomplexé. Voilà, tout le monde est dans cette perspective-là, puisque ça gagne même parfois jusqu'aux enseignants qui ont, pour certains, intégré cet objectif-là dans leur enseignement, quasiment.
Tu nous dresses un tableau plutôt très noir des dernières évolutions, mais la question qu'on a envie de te poser avec Wakadi, c'est évidemment... quels sont les modes de résistance? Est-ce que tu en observes? Comment bougent ou ne bougent plus ou ne bougent pas tes collègues enseignants?
Alors la plupart bougent dans le sens où ils sont quand même indignés, ça c'est sûr. Ils bougent dans le sens où ils sont pas du tout avares de démarches. Des démarches par écrit, des lettres à l'administration, une certaine résistance au niveau du conseil d'administration par les représentants qui siègent. Par contre, c'est une résistance qui s'avère au final, en tout cas dans mon lycée, je parle que pour mon lycée, relativement... elle sert pas à grand-chose et elle est plutôt finalement passive parce que... elle est souvent un peu à contre-courant de ce qu'il faudrait, à mon avis, vraiment faire. Il y a beaucoup de résignation dans le corps enseignant, beaucoup de lassitude vis-à-vis des pertes de salaire, et puis de l'image aussi qu'on donne à la population, parce que voilà, les grèves chaque rentrée, ça lasse tout le monde, on le sait, ça entame notre image. Les profs eux-mêmes ont aussi des enfants, donc ils sont aussi bien placés pour savoir que parfois c'est embêtant. Enfin bon, il y a tout et de plus en plus baissent les bras parce que c'est de plus en plus énorme, et plus c'est énorme et plus ça fait peur de résister quoi. Depuis que j'enseigne, depuis 15 ans, il y a quand même un discours médiatique, un discours politique qui vise à stigmatiser les enseignants et les fonctionnaires en général. Donc on oublie que c'est des gens qui sont au service de la communauté. Mais du coup, ça entraîne une vraie culpabilité des enseignants qui se sentent eux-mêmes privilégiés, alors que par rapport à des patrons voyous, par rapport à beaucoup d'autres types de professions ou de personnages, on peut quand même se demander si c'est les vrais privilégiés de la vie. Et du coup, je pense que ça joue aussi beaucoup sur les formes de résistance, sur la lassitude en fait du corps enseignant en général. Sans compter les jeunes. Les jeunes qui arrivent sont pas du tout... dans un devoir de service public, dans un devoir d'enseignement, ils font un taf, ils sont payés pour ça, ils sont très individualistes, et ça aussi je pense que ça va jouer, et ça joue déjà sur les mouvements en général.
Patrick. très gai comme avenir de l'éducation nationale, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut garder comme note d'espoir, alors ?
Ben, pas très gai, mais pas inéluctable, comme note d'espoir il y a 2012, hein, avec les socialistes qui vont très certainement... Non, je plaisante. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je suis effectivement assez pessimiste. Après, ce qu'il y a de positif, c'est que les enseignants ont, bon, peut-être des comportements que j'ai un peu stigmatisés là à l'instant, mais en même temps, dans la pratique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup, beaucoup de choses, des fourmis, quoi, du travail de fourmis. Qui fait que malgré tout, bah, ça fonctionne. Malgré tout, les gamins de la paillade, voilà, il y en a plein qui arrivent complètement déstructurés et qui sortent avec un CAP, avec un bac pro. Donc voilà, que moi je crois beaucoup au travail local. Donc dans chaque lycée, dans chaque école, dans chaque, je pense que ce qui pourra sauver l'école, c'est localement les initiatives de quelques-uns au service de tous.
Alors Bernard, est-ce que tu partages ce constat ? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des micro-actions locales qui peuvent, faire évoluer les choses ?
Je pense, je suis assez d'accord avec son constat, sauf que moi je suis beaucoup plus optimiste que ça. Je puiserai mon optimisme dans la vigueur et dans l'envie d'apprendre des enfants. Enfin, des enfants du tout petit au lycée. Donc ça c'est plutôt... ça reste là, ça n'a pas été... détruit encore. Les micro-actions au niveau local, il y a des micro-actions au niveau local, dans chaque conseil d'école, pour les écoles, conseil d'administration, dans chaque collège, chaque lycée, ça bouge, ça continue à bouger. Il y a des actions au niveau départemental, avec les fédérations, mais au niveau national aussi. Il y a plein d'endroits où ça bouge. Alors qu'on n'ait pas le résultat escompté tout de suite, c'est très possible. Alors c'est vrai qu'il y a une échéance électorale. Il faudra que les gens se rappellent à ce moment-là, au moment de mettre le bulletin, mais qu'ils réfléchissent bien à ce qu'ils ont vécu les 5 dernières années et qui votent en fonction de tout ça. Ensuite, il faut continuer. J'ai du mal à croire qu'on puisse continuer à assécher l'éducation nationale à ce point. Ou alors, c'est que derrière, il y a un choix de société qui est non dit, et qu'on ressent tous un petit peu et qui nous pousse vers une privatisation à l'américaine et qui n'est pas forcément le meilleur système éducatif. Donc des actions, il y en a plein, que ce soit les enseignants, que ce soit à tous les niveaux, les administratifs, ils sont un peu plus coincés quand même par la hiérarchie, et les parents d'élèves, qu'ils soient de la FCPE ou qu'ils soient ailleurs, c'est... Mais alors, toute action est bonne.
Là, tu nous dis que bon, il y a 2012 le vote, mais on a l'impression quand même avec l'actualité qu'on est en pleine dette, en pleine crise, que les politiques d'austérité, bah, on va être obligé de les subir, qu'on n'a pas le choix, que c'est un peu comme la gravitation, tu sautes de la table, bah, tu finis par tomber, bah là, on a l'impression que les politiques d'austérité, on va devoir se les coltiner. Alors comment, dans ce contexte-là, même avec 2012, est-ce qu'on peut continuer, comme toi, à demander des postes, à demander plus de moyens pour l'éducation nationale, alors qu'au final, on semblerait qu'on vit au-dessus de nos moyens et qu'on n'a pas assez d'argent?
Alors moi, je suis pas politicien, je suis pas économiste. Je reste très critique sur les informations. Si pendant 5 ans, on nous rebat les oreilles pour nous dire qu'on est en dette et que le système, qu'il faut absolument faire quelque chose, la dette des États-Unis, proportionnellement, est gigantesque. Je suis pas sûr que ça soit le seul argument. Ensuite, il y a les choix politiques. On peut effectivement diminuer les dépenses de certains ministères et pas d'autres. C'est un choix politique. C'est un choix politique au niveau du département. C'est pour la gestion des collèges. C'est un choix politique dans les écoles. Quand sur Celle-Neuve, on avait quelques problèmes, ne serait-ce que de grillage, et on nous dit non, on n'a pas les sous. Mais il faudrait savoir, peut-être qu'on ne nettoie pas un tag ou deux tags de moins ne pas nettoyer. Puis l'argent, on le mettra là. C'est une question de choix. Alors.
Tu veux dire que c'est un choix comme faire Pierre Vive à 150 millions d'euros pour faire les
archives départementales ? Oui, alors ça a peut-être un intérêt. Ça a un intérêt si c'est ouvert sur la vie, etc. Maintenant, il y a plein de choix. Je ne vais pas rentrer sur toutes les niches fiscales. Je suis pas assez fort là-dessus, mais il y a plein de gens quand même qui ont du mal à accepter ce qu'on essaye de nous faire avaler comme couleuvre. Et ceci dit, si on revient, alors, pour avoir été trésorier de la FCPE 34 il y a quelques années, on dit, celui qui m'avait formé m'avait dit on fait une gestion au père de, bon père de famille. En bon père de famille, si vous avez des dettes, vous n'allez pas enlever votre enfant de l'école. Vous allez faire le maximum pour qu'il ait le maximum d'informations, de culture, d'éducation, pour que lui s'en sorte. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de nous parler de comptabilité dans l'éducation nationale. C'est pareil dans la fonction publique hospitalière. On ne peut pas ne prendre que cet argument-là. C'est pas un argument. C'est former des élites, former des gens citoyens. Qui tous les jours, des citoyens et des gens qui tous les jours vont intervenir dans leur travail, dans notre vie quotidienne. C'est un investissement. C'est pas à fond perdu, loin de là. Et si on fait pas ça, là, on va être mal.
Alors, on parle de choix de société. Est-ce que tu penses que, donc derrière l'école, il y a effectivement un choix de société et derrière ces choix politiques aussi. Mais est-ce que tu penses que ces réformes-là sont faites pour amener la privatisation de l'éducation nationale? Quand on dit privatisation, c'est-à-dire que, et contre les écoles publiques et contre les écoles privées, avec une libéralisation de la scolarisation, avec des écoles comme Acadomia, comme les cours d'hydro, comme tout ce qu'on voit fleurir un peu partout dans les villes, pour essayer de supplanter l'éducation nationale.
À titre personnel, j'engagerai que moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette optique sous-jacente dans toutes les réformes qui ont été faites. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit aussi pour Acadomia, enfin pour ceux qui, je me demande s'ils se sont pas engagés dans une brèche qui a été faite. Ils ont vu venir le coup, ils sont intelligents, ils se sont dit il y a de l'argent à prendre, comme il y a de l'argent à prendre sur les gardes, comme il y a de l'argent à prendre sur les crèches qui n'existeront plus pour les enfants de, on prend plus les enfants de 2 ans et demi dans les maternelles, donc il va y avoir des crèches privées.
Surtout à Montpellier, où 2 crèches privées ont été ouvertes par la mairie, là, récemment.
Voilà, donc c'est un tout. Moi, j'ai l'impression qu'on part que le seul modèle qui guide nos dirigeants depuis 4-5 ans, c'est le modèle américain. Avec vraiment des soins à 2 vitesses, si c'est pas à 3 vitesses. C'est quand même des gens qui vont le matin, voir si leur nom est tiré au sort pour avoir le médicament. J'espère qu'on n'arrivera jamais à ça en France. C'est pareil pour l'éducation nationale.
On fait le minimum.
On fait un minimum
pour le socle commun.
C'est que les riches s'enrichissent plus et que les pauvres. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a une paupérisation de la population. Les classes moyennes, elles ont du mal à assurer tout. C'est sur elles qu'on tape régulièrement.
Dans les manifestations, mais aussi dans la vie.
Dans la vie de tous les jours et au moment où il faut payer. Donc après. Moi, je pense, c'est du non-dit. Enfin, il y a un livre dont le nom m'échappe tout de suite. C'était ce projet des proches de Sarkozy sur le démantèlement de l'école, enfin de l'éducation nationale. Mais c'était le projet de société qui voulait que.
C'est ce que disait son copain Kessler, qui disait qu'il fallait déconstruire tout ce qui avait été bâti au lendemain de la guerre avec le Conseil national de la résistance.
Exactement, voilà, c'était ça, le Conseil national de la résistance. C'est bon, le prochain, ça sera la Sécu. Hein. Si on touche à la Sécu, ça va être terrible. Pour les Français en général. Hein. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc la privatisation, oui. Enfin, il me semble que dans un discours, notre président de la République avait. Sous-entendu, alors je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un du gouvernement, avait sous-entendu que oui, il fallait ouvrir des écoles privées dans les quartiers difficiles et en particulier des écoles confessionnelles. Avec les accords avec le Vatican, sur la reconnaissance des diplômes du Vatican, enfin bon, il y a plein de choses qui vont dans ce sens. Moi, ça me fait penser au mauvais côté des États-Unis, parce que je ne suis pas entier. États-Uniens, loin de là, mais on prendrait que le mauvais côté et qui sert à une minorité de gens.
Effectivement, on privatise les profits et on collectivise les pertes.
Exactement, c'est exactement ça.
On vit dans un monde formidable. Sur Wakadi aussi, ce qu'on voulait se poser comme question par rapport à l'école, c'est au niveau des résistances. Est-ce que les parents d'élèves, du coup, maintenant la FCPE, veut s'impliquer encore davantage dans la coordination des luttes au niveau... parce que quand on traverse la France, cet été par exemple, on peut traverser, par exemple, longer la Loire et traverser la France, on voit que quasiment tous les villages, dans tous les cantons, il y a des écoles en lutte, non suppression de postes, non à ceci, non à cela. Puisque la FCPE est un peu partout dans toutes les écoles, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de coordonner, d'essayer de, avec les syndicats, d'essayer de coordonner ces luttes et de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ces résistances?
Alors oui, plusieurs niveaux de réponse. C'est vrai que moi aussi j'ai un petit peu traversé la France cet été et j'ai été surpris de voir que presque dans chaque village il y avait écrit sur la route non à la suppression d'une classe, non à la suppression du RASED. Donc ça touche vraiment tout le territoire, ça c'est clair. Ensuite, contrairement à ce que tu viens de dire, la FCPE n'est pas hyper représentée dans le... Alors, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il y a assez peu de parents de primaire qui sont affiliés à la FCPE. La FCPE, c'est une fédération de parents d'élèves. Il faut que les parents d'élèves se regroupent, aient envie de faire quelque chose. Et à ce moment-là, ils vont se dire, bon, soit on fait en indépendant et on s'occupe que de notre école, soit ils se disent, ben, j'ai le temps, j'ai l'envie, j'ai besoin de m'engager un peu plus, et ils vont se tourner vers une fédération de parents d'élèves. Bon, il vaut mieux qu'ils se tournent vers la FCPE, c'est la plus grosse, tant qu'à faire.
Alors, l'avantage avec des principes de ça... qui ne sont pas trop mal. C'est quoi d'ailleurs les principes? C'était une interrogation, il n'a pas révisé. Ça,
alors,
c'est pas bien.
Je vais dire quelque chose qui va faire sourire Guillaume, parce que...
Ça le fera du bien,
oui, ça lui changera un peu. Toujours remettre l'enfant au milieu de la discussion. C'est-à-dire que nous, en tant que parents d'élèves de la FCPE, c'est de dire, bon, d'accord, il y a des revendications salariales, catégorielles des enseignants, mais c'est leur problème. Nous, en tant que parents d'élèves, on vient défendre les enfants, tous les enfants, pas que le nôtre, mais le nôtre en profite en passant, et les parents. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il vaut mieux se regrouper, effectivement, il vaut mieux s'associer à une fédération, devenir membre d'une fédération, parce que là, on va avoir beaucoup plus d'infos, et on a surtout une représentativité vis-à-vis de l'inspecteur, de la mairie, quelle que soit la commune où on est. Donc on discute pour plusieurs écoles et on a plus de poids. On discute avec l'inspecteur académique ou le recteur pour tous les membres de la FCPE. Et au niveau national, le président rencontre régulièrement le ministre. Alors,
Le président de la FCPE.
Sinon, je l'aurais dit dans l'autre sens, c'est le ministre qui rencontre le président. donc, on peut s'informer beaucoup plus. La FCPE fait des formations sur comment on travaille dans un conseil d'école, dans un conseil d'administration, qu'est-ce que c'est que la dotation horaire globale, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a un lien régulier avec les organisations syndicales, ce coup-ci syndicales, d'enseignants, SNUPP, enfin toutes d'ailleurs, toutes celles qui veulent bien nous recevoir.
Le SNUPP, le SNES, le SNESU.
Voilà, tous ceux qui veulent bien... nous recevoir. Donc, c'est toujours mieux d'agir à plusieurs.
À plusieurs. Merci en tout cas pour nous avoir expliqué tout ça. Parce que, donc, pour les parents d'élèves qui nous écoutent, si vraiment vous en avez marre de la case de l'école, de la case du collège et du lycée, déjà, allez vous informer auprès de la FCPE. Essayez de voir ce qui se passe et essayez de voir si, ensemble, on peut pas arriver déjà à faire ouvrir le débat et essayer de se mobiliser contre ces cases. Tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume ?
Je voulais juste signaler que cette musique a signé la fin de l'émission.
Mince.
Toi, Boris, depuis le temps que tu fais des émissions, t'as toujours pas compris. Tu continues, je suis sûr.
Moi,
que tu es parti sur ta
lancée. Moi, je continue.
On était bien sur Radio Clapas.
93.5.
Bernard, 93.5. Bernard Jauvert, on te remercie.
Merci à vous.
Bon courage. Bon courage et bonne continuation.
La lutte continue.
On se retrouve bientôt, restez donc sur Radio Clapas, à bientôt pour une prochaine émission de Wakadi. Vous pouvez retrouver les émissions également sur le site internet Wakadi, c'est On a quelque chose à dire et ça s'écrit O-A-Q-A-D-I, donc wakadi.free.fr ou wakadi.fr tout simplement,
wakadi.fr
tout simplement. Voilà.
Et à la technique, donc c'était Jean-Jacques qui s'est pas trop mal débrouillé, je crois.
Et bien pour une fois,
il a bien fait d'enlever ses moufles.
Ça c'est bien passé.
L'année commence bien.
Ça c'est bien passé. Allez, au revoir et comme disait Ramon, restons vigilants.